Alors, je vous invite à prendre ce matin un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens. Et le passage concerné se trouve au chapitre 1, versets 12 à 14. L'Épître aux Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Jusque-là. J'aimerais juste prier avant. Merci Père de nous réunir ce matin en ton nom. Merci de ce que ta parole est vraiment pour nous un enseignement. Elle est pour nous... cette nourriture qui nous permet de grandir, de te connaître et de te comprendre, Seigneur. Nous voulons te prier que nos cœurs soient disposés ce matin à ton écoute et que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous entendons. Amen. Alors j'ai choisi ce passage parce que dans notre vie de foi, il y a des situations qui sont des fois... difficile à interpréter, à comprendre. J'ai presque envie de dire que la foi est déraisonnable. La foi n'est pas raisonnable. Elle n'est pas quelque chose de logique. Elle n'est pas quelque chose qu'on peut rendre mathématique. Bien évidemment, on entend souvent ce mot parmi nous. Il faut être équilibré. Oui, c'est vrai. Mais... quand il y a certains passages de la parole de Dieu que je lis, je me dis, mais ce n'est pas du tout équilibré. Comment se fait-il que cette personne ou ceci arrive? Paul se trouve ici à Philippe emprisonné. Il est emprisonné alors que nous savons tous que Paul est un outil de qualité dans les mains de Dieu. Qui est zélé comme Paul? Qui annonce l'évangile comme l'apôtre Paul? Mais c'est un bon élément, Seigneur. Et il écrit aux Philippiens et il leur dit ce passage que nous venons de lire. On pourrait se dire, mais je ne comprends pas, ce n'est pas logique pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, de se priver d'un tel élément. Et puis, Paul lui-même aurait pu se poser ces questions, mais j'ai tant de projets encore, Seigneur, et je me retrouve en prison. Je me retrouve là, bloqué. Comme si ta parole maintenant ne va plus se répandre. Alors, pas de chance. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai pas de chance. Et pourtant, il y a des situations où très honnêtement, dans ma vie, j'avais envie de dire pas de chance, Luciano. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'il y a cet élément du hasard qui existe, ce hasard qui est là et qui tombe, comme certains le prétendent? Des hommes ont dit, comme Einstein, que le hasard, ce serait vouloir dire de mettre de la dynamite dans une imprimerie, de la faire sauter et de croire que toutes les lettres retombent en forme de dictionnaire. Et oui, c'est le hasard, ça n'existe pas pour nous. Ou alors, il disait une autre parole que je trouve très intéressante. Le hasard, c'est tout simplement, il existe. C'est quand Dieu se promène incognito. C'est comme ça qu'on doit voir le hasard. Mais pour Paul, c'était ce qu'il était en train de dire aux Philippiens. Il leur disait, au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au bien de l'Évangile. » Ce n'est pas du hasard. Alors, à première vue, il n'y a rien de logique dans tout cela, mais ce n'est pas du hasard. Tout ce qui m'arrive, je suis en prison, mais ce n'est pas du hasard. Et Paul va en donner les preuves. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin avec vous. La première preuve que Paul peut donner, c'est vis-à-vis des incroyants et vis-à-vis des croyants. Il dit, voilà, vis-à-vis de nous, enfants de Dieu, je vais vous montrer que cette situation est bénéfique. Et vis-à-vis des incroyants, elle est aussi bénéfique. Parce que Dieu utilise tous les événements de notre vie au profit de son évangile. Et c'est vraiment cette idée que nous ne devons pas oublier. Tout ce qui arrive dans notre vie est au profit de l'Évangile. Le Seigneur le tire au profit de l'Évangile. Et les situations vous paraîtront des fois obscures et des fois difficiles, mais n'oubliez pas que Dieu est Dieu et que toutes choses sont entre sa main. Il est souverain. Alors la première preuve que Paul va leur donner, elle se trouve en Philippiens 1,13 où il dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » C'est intéressant parce que Paul est en train de dire que le prétoire, c'était la garde rapprochée de César. Il est en train de dire « Nul n'ignore qui est Christ. Grâce à cet emprisonnement que j'ai la possibilité d'annoncer l'évangile de Christ. » Il faut savoir que Paul était emprisonné d'une manière un peu spéciale. C'était un emprisonnement, non pas dans une prison, mais il avait un logement. Et dans ce logement, il était attaché à un soldat. Alors, je vous laisse imaginer la scène. Toutes les 6 heures, il y avait une relève de soldats. Et 24 heures sur 24. Vous pourrez vous amuser à faire le calcul. Ça représente pas mal d'hommes en 2 ans où il était là-bas, où Paul a eu le privilège. Le Seigneur a de l'humour. Voilà, Paul, tu es fatigué. Tu pourras rester à la maison. Et désormais, les âmes à convertir, je te les amène à toi. Et en plus, elles seront attachées. Donc, ils sont obligés d'écouter, hein. Ce n'est pas un privilège. Quelque part, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, mais rendez-vous compte, mes frères. Jusqu'à présent, je devais parcourir des kilomètres. Et là, je suis installé à la maison, attaché à un homme qui n'est pas converti. Et pendant 6 heures, il a le droit à une prédication. Alors, imaginez. Est-ce qu'on arrive à voir les choses de cette manière dans ces situations? C'est un privilège. Quand un David se présente devant un Goliath, est-ce que c'est logique? Un géant et un tout petit, une fronde. Mais voyons, David, tu ne vas pas combattre un géant avec une fronde, c'est pas logique. Mais par la foi. La foi est déraisonnable. Mais des fois, en ayant ces raisonnements-là de logique, on met des freins à l'évangile. Parce que nous voulons être mathématiques, parce que nous voulons raisonner. Nous devons regarder à notre Dieu et croire qu'il est tout puissant dans toutes les circonstances. Parce que Dieu tire profit de toutes ces circonstances-là. Souvenez-vous des cruches de Gédéon, de simples cruches, ce qu'il a fait avec. Eh oui, libre d'annoncer l'évangile. Partout où nous sommes, dans toutes circonstances. Autant les Gédéons avaient des cruches, autant un David avait une fronde, autant Paul avait des chaînes. Et ces chaînes étaient au profit de l'Évangile. Et c'est ce qu'il dit aux Philippiens. Voilà les preuves. Ce sont des preuves très concrètes. C'est que tout le prétoire est au courant. Et puis, c'est intéressant de voir que au chapitre 4, au verset 22, il nous est dit « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Il faut croire que Paul avait non seulement contaminé la garde prétorienne de César, alors imaginez, César ne devait pas être très content, mais en plus de cela, des gens même de la maison de César, c'est-à-dire la haute société, étaient là et avaient entendu le message de l'Évangile. Et puis de plus, nous savons que Paul devait se faire juger lui-même, puisque un nouveau mouvement naissait en Paul, et il fallait statuer sur ce que c'était ce nouveau mouvement de chrétiens évangéliques baptistes. Alors ces juges ont dû prendre la doctrine de Paul et l'examiner de A à Z. Imaginez, ils ont dû apprendre ce que c'était la parole de Dieu. S'ils voulaient statuer, s'ils voulaient trancher sur ce sujet, il devait étudier la Bible. Comment est-ce que on aurait pu atteindre ces gens autrement à cette époque? Dieu utilise toutes choses au profit de son évangile. Paul donne ces informations aux Philippiens en ce qui concerne les incroyants. mais il donne aussi des informations en ce qui concerne les croyants. Il leur dira, au verset 14, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par Ménia, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Il faut croire que quand il y a des gens en place, dans l'Église, il y en a d'autres qui attendent que ça se passe. Il faut croire qu'il faut qu'il y ait des personnes, des fois, qui sortent de leur poste pour laisser la place à d'autres. Parce que avant cela, ces gens-là, il faut croire qu'elles ne s'étaient pas engagées. On peut lire dans Acte 8, verset 4, et dans Acte 11, verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans les îles de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Qu'avait dit Jésus aux apôtres? Il avait dit « Allez par-delà le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites-en des disciples, enseignez-les. » Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont restés à Jérusalem, confortablement. Et alors, une persécution arrive, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont dispersés, et dans leur dispersion, ils annoncent l'Évangile. C'est intéressant de voir que, des fois, le Seigneur met des circonstances dans nos vies pour que, ah voilà, maintenant, je t'ai poussé dans un retranchement, et ça t'a obligé à annoncer l'Évangile. Et ces circonstances, est-ce qu'elles sont le fruit du hasard? Je vais vous lire un petit passage d'un journal d'une femme de 22 ans qui s'appelle Perpétue. Et cette femme a vécu au deuxième siècle de notre ère. Et en fait, c'était la période de persécution des chrétiens. Et elle écrit en quelque sorte son jugement et un peu les conditions de son jugement. Et j'ai trouvé intéressant ce témoignage parce qu'il parle au cœur. Perpétue, 22 ans. Nous allions être interrogés par les Romains, les uns après les autres. La même question était posée, puis on arrive à moi. Tout à coup, apparaît mon père, portant mon fils dans ses bras. Il monta près de moi pour m'ébranler. Il disait, « Ma fille, aie pitié de mes cheveux blancs. Aie pitié de ton père. Si je suis digne que tu m'appelles père, songe à tes frères et à ta mère, songe à ton fils qui ne pourra plus vivre avec toi. Sacrifie par pitié pour l'enfant. » Puis c'est le procurateur Hilarianus qui prend la parole. Songe aux cheveux blancs de ton père, songe à l'enfance de ton fils, sacrifie pour le salut des empereurs. Moi je réponds non, je ne sacrifie pas. Alors Hilarianus, tu es chrétienne? Moi, je réponds, je le suis. Alors, nous fûmes condamnés aux bêtes. Tout joyeux, nous descendîmes vers la prison. Quand je lis ces passages, je me dis, comment se fait-il qu'elle a eu cette force à ce moment-là? Est-ce que les circonstances peuvent écraser le chrétien? Et là, je me dis, non, le Seigneur ne donnera pas au-delà de nos forces. Et les circonstances qui peuvent nous arriver, nous devons les regarder au travers de la souveraineté de Dieu. Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si pour ton évangile, je me trouve dans telle ou telle situation, c'est pour ta gloire et je suis confiant que tu seras avec moi jusqu'au bout. Paul lui-même dira ces choses en 1 Thessaloniciens 2:2. Il dit, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats, après avoir souffert. » Parce que c'est quand vous passez dans des moments difficiles, quand vous passez, vous savez, cette vallée de l'ombre de la mort que le psaume 23 nous décrit, c'est là qu'on s'aperçoit d'une chose merveilleuse, c'est qu'on a un berger qui est à nos côtés, et qui, lui, ne nous abandonne jamais. Et nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Alors, dans ces situations, quelles sont nos réactions? Des réactions qu'on peut avoir qui sont tout à fait humaines, logiques, légitimes. Quelles sont-elles? J'aimerais vous lire encore une petite histoire de fermiers qui font partie d'une coopérative et qui vont voir leur mère et qui leur posent certaines questions. Dis-nous, qu'entend-on par dialectique? Le maire répond et dit, je ne peux pas vous expliquer, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez que deux des vôtres viennent vers moi. L'un est propre et l'autre est sale. Je leur offre un bain. Lequel des deux va accepter le bain? Le propre ou le sale? Les fermiers répondent, le sale. Non, le propre, répond le maire, car le propre a l'habitude de se baigner et le sale n'en voit pas la nécessité. Lequel acceptera donc le bain? Le propre. Non, le sale, car il a besoin d'un bain. Qui va accepter le bain? Alors les fermiers, un peu énervés, disent le sale. Non, les deux. Le propre a l'habitude de se baigner et le sale a besoin d'un bain. Qui donc, finalement, va accepter ce bain? Les fermiers commencent à être déconcertés et disent « les deux ». Non, aucun des deux, car le sale n'a pas l'habitude de se baigner et le propre n'a pas besoin de bain. Alors les fermiers, exaspérés, disent et s'écrient « vous dites chaque fois autre chose et chaque fois seulement ce qui vous arrange ». Et le maire répond « eh bien voilà ». C'est exactement cela, la dialectique. La logique, répond le maire en souriant. Et aujourd'hui, on sourit, mais est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme cela, de bons dialecticiens? On se dit des fois, je ne pouvais pas faire autrement, Seigneur. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le moment. Je témoignerai une autre fois. Or, c'est mal parti aujourd'hui. Dieu tire profit de toutes les situations qui sont devant nous. Est-ce que nous sommes ces dialecticiens? Ou est-ce que nous sommes comme Paul, à y voir une opportunité pour Dieu? À y voir que Dieu agit dans toute sa souveraineté et que Dieu est puissant. Dans Ésaïe, au chapitre 59, au verset 1, Dieu nous dit « ce n'est pas ma main qui est trop courte. C'est vos péchés qui sont entre vous et moi qui nous séparent. » Alors, l'exhortation que j'aimerais vous laisser ce matin pour terminer, c'est dans toutes les situations, nous devons avoir une totale confiance en Jésus. Parce que s'il permet une telle ou telle situation pour l'Évangile, ce n'est uniquement que pour tirer profit et avantage pour son royaume. Amen.